Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité, au milieu du mois de janvier 1294, il fait vraiment froid, hein, le feu crépite dans toutes les cheminées du palais de la Cité. En 1294, Philippe le Bel n'a pas encore entrepris tous les travaux qui vont complètement transformer ce palais des rois et modifier son visage. En cette matinée d'hiver, donc, un petit attroupement est là dans la salle du roi. Le trône est ici, si l'on peut dire, en tout cas le grand fauteuil sur lequel siège le roi, qui est là, bien sûr. Il y a autour de lui le chancelier de France, le chancelier c'est Guillaume de Crépy, différents conseillers, plusieurs membres de la famille royale. En cette matinée d'hiver, c'est le roi d'Angleterre qui doit se présenter à la cour du roi de France, celui que Maurice Druon, beaucoup plus tard, surnommera le roi de fer. 1294 donc, hein. Il ne doit pas se présenter en qualité de roi, mais en celle de duc de Guyenne, qui fait de lui le vassal du roi de France. Il y a 4 mois, le roi Philippe a cité le roi Édouard à comparaître à Paris. Il y a de grandes discordes entre les deux et Philippe use de son pouvoir de suzerain pour convoquer le roi d'Angleterre, qui est donc aussi duc de Guyenne. C'est un petit peu humiliant, ça, il faut le reconnaître, pour un roi qui se veut puissant, d'être comme ça convoqué par un de ses pairs. C'est donc ainsi qu'à la mi-janvier 1294, le roi se remplit, la délégation anglaise est en train d'entrer dans la salle du roi et, disons les choses, ce n'est pas Édouard Ier qui se présente, c'est son frère, Edmond de Lancastre. Alors, dans l'assistance, certains sont surpris de ne pas voir le roi d'Angleterre, mais pas le roi de France. Lui était déjà renseigné de ce qui allait se passer. Édouard a demandé à son frère de le représenter. Il ne l'a pas choisi par hasard, d'ailleurs. Ce prince anglais avait épousé la mère de Jeanne de Navarre, la femme de Philippe le Bel, et donc, généalogiquement, c'est le beau-père du roi de fer, qui, entre parenthèses, est seulement âgé de 25 ans. Edmond est bien reçu. Il espère qu'aucun reproche ne sera fait à propos de son frère, qui est donc resté à Londres. Philippe le Bel, c'est évident, est mécontent, sinon il n'aurait pas organisé cette convocation. Évidemment, il s'agit de s'affranchir de plus en plus pour l'Angleterre du roi de France. Et en tant que duc de Guyenne, le roi d'Angleterre a l'intention d'être le plus possible chez lui, sur le continent. Et ça, évidemment, Philippe le Bel ne veut pas l'entendre. Cette première réunion ne se passe pas très bien et Philippe décide de convoquer Édouard une seconde fois. Dans sa biographie de Philippe le Bel, voici ce qu'écrit Dominique Poirel. Cette fois, Édouard comprit que les choses étaient sérieuses. Par le passé, c'était pour avoir refusé de se rendre à une pareille citation que son aïeul, Jean Santerre, s'était fait confisquer la Normandie, la Bretagne, le Maine, la Touraine et l'Anjou, soit les 2/3 de la partie française de l'Empire Plantagenet. Le peu qui en restait allait-il disparaître de la même manière? Mais ce n'était pas tout. Cette assignation en jugement plaçait Édouard devant un cruel dilemme. En effet, s'il refusait de comparaître, non seulement Philippe confisquerait l'Aquitaine, mais encore lui-même donnerait un fâcheux exemple à ses propres vassaux d'Angleterre, de Galles et d'Écosse, lesquels ne demandaient qu'un prétexte pour se rebeller contre lui. D'un autre côté, comparaître en personne eût été pour Édouard une grave humiliation dont son autorité souffrirait pareillement face à tous ses vassaux. Que faire ? Le roi d'Angleterre se dit qu'il a tout à perdre et sur les deux tableaux.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, qu'est-ce qui vaut précisément à ce Ducroy une convocation à comparaître devant le roi de France. Pour le comprendre, il faut remonter un an en arrière et évoquer un simple fait divers. En 1293, il y a eu, en Bretagne, une rixe qui a éclaté entre un matelot normand et un matelot bayonnais. Et à l'issue du combat, de la bagarre, le bayonnais a tué le normand, ce qui a déclenché une escalade de violence entre les normands d'un côté et les aquitains de l'autre. À partir de ce moment-là, tous les navires normands qui croisaient un navire anglais ou aquitain le sabordaient, le volaient, on tuait les gens qui se trouvaient à bord. La situation était en train de s'aggraver. Des marchands normands ont été tués et écartelés à Bordeaux, à Fronsac. Des officiers de Philippe le Bel ont été massacrés. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance générale. Et le roi de France condamne cette violence, bien entendu, et il essaie de faire revenir le calme. En 1293 toujours, 200 navires normands ont décidé de réaliser un blocus dans la Manche en arraisonnant tous les navires qui réalisaient la jonction entre Aquitaine et Angleterre. Très important cette jonction parce que c'est notamment toute la route du vin, bien sûr, hein, le vin d'Angleterre qu'on consomme à Londres. En retour, Édouard Ier n'a pas l'intention de se laisser faire. Il a rassemblé tous les navires de Douvres, Hastings, Hythe, Romney et Sandwich, c'est-à-dire plus de 200 navires, et les a dirigés vers la Normandie pour attendre la flotte normande. On est donc au matin du 15 mai 1293 et les Anglais ont une règle, ils ont une consigne plus exactement, pas de quartier. Et ça va être dans les rangs normands une véritable hécatombe. Et quand le roi Philippe apprend la nouvelle, il est très en colère. Je cite encore Dominique Poirel. Cette fois, c'en était trop. Philippe IV le Bel s'étonna de la conduite du roi d'Angleterre. Certes, autant qu'on en pouvait juger dans cette spirale de vengeance, les mariniers normands avaient de grands torts. Cependant, tandis que lui-même, leur souverain, les avait désapprouvés, Édouard avait donné une nouvelle ampleur à la querelle en ordonnant une grande action punitive sans même l'en avertir. Ce n'était plus de la piraterie, c'était de la guerre. Et même plus grave qu'un acte de guerre, il s'agissait d'une félonie. En effet, dans la mesure où le conflit mettait aux prises des Normands et des Bayonnais, tous sujets directs ou non du roi de France, c'était à Philippe d'établir les torts et de punir les coupables. Or, en prenant les armes en faveur des Bayonnais, lesquels Bayonnais avaient d'ailleurs massacré des officiers royaux, Édouard se rebellait contre Philippe. Il violait son serment d'hommage et rompait le lien vassalique qui l'unissait comme un duc au roi de France. Et voilà. Voilà l'histoire. Voilà pourquoi il n'était pas possible au roi de France d'accepter les violences qui étaient commises sur son territoire par des sujets de celui qui n'était autre que son vassal. Voilà pourquoi il convoque Édouard à Paris et que Édouard se fait représenter par son frère. Je vous l'ai raconté. Alors, son frère Lancastre va proposer de marier le roi anglais qui est veuf à la sœur du roi Philippe le Bel. On demande à Marguerite ce qu'elle en pense. Elle ne veut rien entendre. Elle n'est pas question pour elle de ce mariage. Et le 21 mars 1294, Philippe convoque sa cour en parlement avec une décision claire. Donner une toute dernière chance au roi Édouard. Il doit venir à Paris lui-même. Il doit répondre à cette convocation. Faute de quoi, tous ses territoires français seront réquisitionnés. Thank you. Un extrait de la 3e symphonie d'Albéric Magnard par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, cette fois, Édouard Ier doit bien faire face à cette deuxième convocation du roi de France. Dans un premier temps, il essaie de gagner du temps. Vous savez comment on fait, on temporise. Et puis, il demande un délai de 2 mois qui lui est refusé. Il demande un sauf-conduit pour garantir sa sécurité. Et de nouveau, c'est refusé. Jamais un vassal n'avait demandé de sauf-conduit pour circuler sur le territoire de son suzerain. C'était presque une insulte, en l'occurrence. Édouard ne va donc pas se présenter. Et comme Édouard refuse de se présenter, eh bien, ce qui devait arriver arriva, si je puis dire. Le 19 mai de cette même année 1294, la cour de France prononce la confiscation du fief guyennais des Anglais. Philippe le Bel n'a aucun mal à s'installer dans l'ancien duché Plantagenet. En 2 semaines, il prend possession de la Guyenne et le roi d'Angleterre ne veut pas le laisser faire. Il a 30 ans de plus que Philippe le Bel, il a beaucoup plus d'expérience politique, il est très confiant sur l'issue d'une guerre dont il est convaincu que les Anglais s'arrangeront. Bref, Philippe le Bel, qui lui est tout jeune, est déjà fin politique. Ses réseaux diplomatiques vont pousser le pays de Galles à se rebeller. Et bientôt, l'Écosse, là ça commence à se corser pour le roi d'Angleterre. Je cite David Chantran dans ses Chroniques des territoires. Sûr de sa force, Édouard sait que le risque principal, s'il s'avance trop, peut venir d'Écosse, dont le roi a apporté son concours aux Français. Un affrontement avec un voisin pourrait faire voler en éclats la paix britannique établie, d'autant que le pays de Galles s'est soulevé et que la stabilité affichée depuis plusieurs mois n'est que de façade. Dans ces conditions, il n'est plus possible pour le roi d'Angleterre d'envoyer sur le continent toute l'armée qu'il avait prévu d'envoyer. Alors là, c'est tout le jeu des alliances. Édouard Ier se lie au duc de Brabant, de Flandre, de Bretagne, au comte de Bar, de Savoie, de Juliers. Le roi de France, de son côté, se lie au comte de Hollande, de Hainaut, de Bourgogne, de Luxembourg, au roi de Norvège. C'est un système d'alliance hein, qui se met alliance contre alliance, si vous voulez, réseau contre réseau. Édouard Ier a l'intention de très vite bouter les Français hors de Guyenne et en octobre 1294, 2 escadres britanniques, enfin anglaises, devrais-je dire à l'époque, prennent la direction de Bordeaux. L'une est menée par Jean de Bretagne, le fils cadet du duché de Bretagne, et l'autre par un des principaux lieutenants de l'armée d'Édouard. Mais quand ils arrivent devant Bordeaux, pas moyen de débarquer. Les escadres se divisent. L'une prend Bayonne, l'autre Blaye. Le but, c'est d'attendre et de préparer un plus gros débarquement. Sauf que plusieurs bouleversements vont modifier la situation. La veille de Noël 1294, on élit un nouveau pape qui va mettre fin à une longue phase d'incertitude à la tête de l'Église. Le pape en question, c'est Boniface VIII, qui n'a pas l'intention que le conflit en question dure et dégénère. Il écrit des lettres au roi de France et au roi d'Angleterre dès qu'il est élu. Voici ce qu'il dit à Édouard Ier. « Sont-ce là les œuvres de piété que réclame ta vieillesse? Est-ce là le souci de ton salut qu'exige ton grand âge ?» Il lui rappelle qu'il avait participé à une croisade. Il écrit « As-tu oublié comment, obéissant autrefois au roi céleste, tu avais entrepris de libérer la terre sainte au point que tu pervertis à présent ta force et ta puissance, non plus contre les blasphémateurs du Christ, mais au contraire, à tuer des croyants et à massacrer de fidèles chrétiens, non sans le plus grand préjudice pour ton salut ?» Mais c'est pas parce qu'il écrit au roi d'Angleterre que Boniface VIII oublie le jeune Philippe le Bel. Il lui dit « Sont-ce là les œuvres louables de sainteté qu'ont de leur vivant accompli tes ancêtres de claire mémoire, les rois de France, eux qui furent toujours illustres par leur foi, sincères dans leur dévouement et glorieux par leur respect et leur obéissance ?» Le pape, vous l'avez compris, demande à chacun des deux rois de s'assagir. Une trêve, voilà ce qu'il veut. Philippe le Bel déclare aux envoyés du pape qu'il désire la paix plus que tout, qu'il a simplement l'intention qu'Édouard redevienne son vassal. Faute de quoi, eh bien, il faudra reprendre la guerre. La trêve va durer 1 an, comme prévu, entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Mais à la fin de l'année 1295, les deux monarques relèvent les impôts. Ça, généralement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que, de nouveau, on va se jeter dans la guerre. Le prélude du premier acte du roi Artus d'Ernest Chausson par le nouvel orchestre philharmonique de Radio France sous la direction d'Amine Jordan.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À la fin du mois d'octobre 95, le roi de France, Philippe, signe un traité d'alliance avec le roi d'Écosse, Jean Balliol. C'est un traité de soutien qui va pousser les Écossais à prendre les armes contre leurs grands voisins du Sud. Autant dire que Édouard Ier est une nouvelle fois obligé de maintenir ses soldats à la frontière nord. Il ne peut pas attaquer comme il aurait voulu le roi de France. Seulement, il a bien l'intention de montrer que cela ne l'empêche pas d'envoyer des navires et des hommes pour récupérer sa chère Guyenne. Et c'est donc son frère, toujours Edmond de Lancastre, qui prend la tête d'une nouvelle expédition navale. Nous sommes là maintenant au début de l'année 1296. Après plusieurs semaines de siège contre Bordeaux, le duc de Lancastre décide de rebrousser chemin, d'aller consolider la place forte, qu'est la ville de Bayonne. Et peu de temps après, le roi de France va nommer Robert d'Artois responsable de toutes les actions militaires dans l'Aquitaine. Donc c'est frère contre frère, si je puis dire. Je cite encore Dominique Poirel. À 46 ans, Robert d'Artois était au comble de sa gloire militaire. Partout où il avait combattu, Navarre, Castille, Italie, la victoire lui avait toujours souri. De même, en Aquitaine, il eut au fait d'emporter plusieurs places fortes. Au printemps 1296, il ne resta plus aux Anglais que Bayonne et ses environs. Le duc de Lancastre était malade depuis quelques mois, ses échecs l'achevèrent et il mourut au mois de juin. En mourant, il laissait deux capitaines pour conduire l'armée après lui, Jean de Bretagne et le comte de Lincoln. Ce fut ce dernier qui reprit le commandement au grand regret du comte de Bretagne qui, dès lors, se lassa quelque peu de l'alliance anglaise. Et quand Édouard Ier apprend la mort de son propre frère et la difficulté grandissante de l'armée anglaise, eh bien, il décide de changer d'attitude et il va finalement se lancer dans des pourparlers avec le roi de France.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut vous dire que les barons d'Angleterre en ont assez de cette querelle, et la population aussi, les sujets qui souffrent, bien sûr. Le 9 octobre 1297, c'est la trêve de Vie-Saint-Bavon. Le pape Boniface VIII est l'arbitre de cet accord entre les deux rois, trêve qui doit durer 2 ans seulement. Le roi de France entre en guerre contre le duché de Flandre, donc ça va retarder un peu les discussions. Quand je dis un petit peu, ça va les retarder beaucoup, puisque les espèces de négociations diplomatiques vont durer 6 ans. Pendant 6 ans, c'est donc une espèce de statu quo sur le terrain. La France occupe encore la Guyenne militairement. Édouard Ier négocie pour que ce fief lui revienne, il va falloir attendre le 20 mai 1303 pour qu'enfin soit signé un traité. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le traité en question? Parce que là, les conséquences sont considérables. La Guyenne est rendue à Édouard Ier dans son intégralité. Et le roi d'Angleterre confirme être vassal du roi de France en tant que duc de Guyenne. Édouard Ier épouse Marguerite, la sœur du roi Philippe. Et un autre mariage est promis, celui d'Isabelle, la fille de Philippe, qui à l'époque n'a que 7 ans, avec le fils aîné du roi Édouard, le prince de Galles, celui qui plus tard va devenir Édouard II. Conséquences qui seront considérables parce que c'est ce mariage-là, le mariage d'Isabelle avec Édouard II, qui aura lieu donc 5 ans plus tard en 1308, c'est ce mariage qui va donner naissance aux revendications anglaises directes sur la France et qui va donner naissance à une guerre qui durera 100 ans. Et oui, la célèbre guerre de 100 ans. Qui aurait pu imaginer qu'une simple rixe entre un marin de Normandie et un marin de Guyenne conduirait à l'un des plus grands conflits de l'histoire?
Vous écoutez Radio Classique.
Merci Jean-Baptiste Galen et bonjour Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck Ferrand, merci pour Philippe le Bel et les Anglais. Enfin bon, il y avait une distance entre eux, on peut dire. Cet après-midi, on change de camp, si j'ose dire, avec quelqu'un de très célèbre.
On traverse l'Atlantique,
c'est le général Custer.
Exactement, oui.
Alors la guerre de sécession, etc.
Et le reste, etc. J'allais dire, hélas.
Bien, et demain matin, on vous retrouve à 9h, et d'abord à 8h05, je le rappelle chaque jour, nouveau rendez-vous avec le point du jour aux côtés de David Abiquet.
Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.